Résonance sur Radio B. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Du 21 au 25 janvier dernier, s'est déroulée la 10e édition des Nuits de la Lecture, nuit organisée pour la 5e année par le Centre National du Livre sur proposition du ministère de la Culture. Une initiative qui invite le public à se réunir à l'occasion de milliers d'événements physiques et numériques sur l'ensemble du territoire national. La thématique retenue pour cette édition 2026 est « Villes et la campagne ». Les villes et la campagne. Voilà une intéressante thématique qui a permis justement de travailler la vision des relations ville-campagne et qui a été la source d'inspiration, bien sûr, de nombreux romans et d'œuvres littéraires dans tous les genres, du polar à la science-fiction en passant par la poésie. Les nuits de la lecture se sont également déroulées ici, à Bourg-en-Bresse, notamment à travers une très belle et riche programmation imaginée par les différentes équipes des médiathèques de la cité. De nombreux rendez-vous ont donc invité le public bressan à se rendre à la médiathèque Aimé Césaire, la médiathèque Elisabeth et Roger Vaillant et à la médiathèque Albert Camus, où notre émission Résonance a installé ses micros. Résonance, Alain Goudard, Simon Deborne réalise la présente émission. Plusieurs rendez-vous se sont donc déroulés ce vendredi 23 janvier à la médiathèque Albert Camus et nous sommes allés notamment à la rencontre de lycéens du lycée Lalande qui se sont emparés, eux aussi, de la thématique des nuits de la lecture, villes et campagnes. Ils nous entraînent dans un voyage à travers la lecture de différents textes littéraires qui ont retenu leur attention. Alors si vous voulez bien, écoutons-les.
Bon, apparemment on va commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Les élèves du lycée Lalande ont choisi quelques textes qu'ils ont envie de partager avec vous, de vous lire. On devait être un peu plus nombreux ce soir, mais il y a des malades, des absents, et du coup on a un effectif un peu plus réduit que ce qui était prévu. Ils vous annonceront à chaque fois, je pense, le titre de l'œuvre choisie de l'auteur. Et puis, on va vous laisser le plaisir de découvrir des textes en lien avec le thème donc, de cette année, Ville et campagne.
Bonsoir.
Bonsoir. Donc on va vous présenter Zone de Guillaume Apollinaire. Et c'est Aaron qui commence.
À la fin, tu es las de ce monde ancien. Bergère, oh tour Eiffel, le troupeau des ponts belles ce matin. Tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine. Ici même, les automobiles ont l'air d'être anciennes. La religion seule est restée toute neuve. La religion est restée simple comme les hangars de port aviation.
Seul en Europe, tu n'es pas antique. Ô christianisme, l'européen le plus moderne, c'est vous, pape Pie X. Et toi, que les fenêtres observent, la honte te retient d'entrer dans une église et de t'y confesser ce matin. Tu lis les prospectus, les catalogues, les affiches qui chantent tout haut. Voilà la poésie ce matin. Et pour la prose, il y a les journaux. Il y a les livraisons à 25 centimes, pleines d'aventures policières. Portraits des grands hommes, et mille titres divers. J'ai vu ce matin une jolie rue dont j'ai oublié le nom. Neuve et propre, du soleil, elle était le clairon. Les directeurs, les ouvriers et les belles sténodactylographes, du lundi matin au samedi soir, quatre fois par jour, y passent. Le matin, par trois fois, la sirène y gémit. Une cloche rageuse y aboie vers midi. Les inscriptions des enseignes et des murailles. Les plaques, les avis à la façon des perroquets criaillent. J'aime la grâce de cette rue industrielle, située à Paris entre la rue Aumontier-Ly et l'avenue des Termes.
Voilà la jeune rue, et tu n'es encore qu'un petit enfant. Ta mère ne t'habille que de bleu et de blanc. Tu es très pieux, et avec le plus ancien de tes camarades, René Dalise, vous n'aimez rien tant que les pompes de l'église. Il est 9h, le gaz est baissé. Tout bleu, vous sortez du dortoir en cachette. Vous priez toute la nuit dans la chapelle du collège. Tandis qu'éternelle et adorable profondeur améthyste tourne à jamais la flamboyante gloire du Christ. C'est le bolis que tous nous cultivons. C'est la torche aux cheveux roux que n'éteint pas le vent. C'est le fils pâle et vermeil de la douloureuse mère. C'est l'arbre toujours touffu de toutes les prières. C'est la double potence et l'honneur de l'éternité. C'est l'étoile à six branches. C'est Dieu qui meurt le vendredi et ressuscite le dimanche. C'est le Christ qui monte au ciel mieux que les aviateurs. Il détient le record du monde pour la hauteur.
Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous lire trois extraits du livre Les étincelles invisibles, écrite par Elle MacNicol. Alors d'abord je vais vous situer un peu le texte. Donc c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Adeline et elle est autiste. Et à l'école, elle apprend que des sorcières ont été brûlées dans son village. Donc elle va faire des recherches sur ces sorcières-là et elle va se rendre compte qu'en fait elle s'identifie vachement à ces sorcières par rapport à leurs différences. Et donc, durant tout le livre, elle va militer pour faire une plaque commémorative pour ses sorcières. Bonjour, nous lance Monsieur Patterson. On voit tout de suite qu'il n'a pas l'habitude de s'adresser à des enfants. Vous êtes content d'apprendre des choses sur les sorcières? Mon cerveau sort de sa zone de confort et se met à tirbouner frénétiquement. Je suis à fond, je veux tout savoir. Je m'écris oui. Certains élèves pouffent, mais Monsieur Patterson semble amusé. Quand j'ai fait mes recherches sur les sorcières, j'ai découvert que les procès qui les condamnait à être émergés dans l'eau dont nous a parlé Mademoiselle Murphy n'étaient pas très fréquents chez nous. Ils étaient beaucoup plus en Europe. Alors j'ai hâte de savoir ce qui est réellement arrivé aux sorcières de Juniper. Keddy m'a chargée de dire à Mademoiselle Murphy qu'elle était mal informée et qu'on nous avait raconté des conneries. Mais maman l'a fait taire et m'a formellement interdite de répéter ça. Nous arrêtons tout d'abord près de la rivière Water of Life pour admirer l'arbre des sorcières. En avant! Mademoiselle Murphy nous fait signe de les suivre, elle et Monsieur Patterson, pour traverser le bois et descendre la rivière. Les grands arbres nous cachent un peu le soleil qu'il y a encore en octobre. Le sol est légèrement boueux à cause des grosses pluies de l'année dernière. Je me force de poser les pieds exactement dans les empreintes de ceux qui marchent juste devant moi, mais ce ne sont pas les mêmes. Mademoiselle Murphy et Monsieur Patterson s'arrêtent devant un arbre massif aux grosses branches noueuses. Ils attendent que nous fassions un cercle autour de lui. « Alors, les enfants, » dit Monsieur Patterson en ouvrant les bras et en nous dévisageant un par un. Certains d'entre nous ont l'air intéressés, d'autres s'ennuient visiblement. « Nous allons essayer d'imaginer cet endroit, ce chemin, ces arbres, tels qu'ils étaient il y a plusieurs siècles. Je n'ai aucun mal à le faire. Pas de graffiti sur les murs à moitié écroulés, pas de sacs en plastique accrochés ici ou là dans les branches. Le village de Juniper, plus sombre, plus froid. À la place des bruits des voitures et des bips incessants, des passages pour piétons, le pas étouffé des sabots, et des chevaux, de vieux moulins à papier. Il y a quelques centaines d'années, des gens vivaient ici à Juniper, comme vous tous, des fermiers, des meuniers et leurs familles. Le village était placé sous l'autorité de l'église locale. Les gens de l'église prenaient des décisions importantes et exerçaient leur contrôle sur Juniper. Et c'était aussi que les habitants allaient trouver pour dénoncer les sorcières. Ils nous regardent avidement les yeux brillants. Est-ce que l'un de vous sait à quoi on reconnaît une sorcière? Quelques mains se lèvent. Il désigne Alfie, un des garçons. Elles étaient vieilles, laides et mal polies. Bien, dit Monsieur Patterson, un peu décontenancé. Peut-être, certaines d'entre elles, peut-être. Mais en fait, c'est une question piège. Car il n'existe aucun moyen de repérer une sorcière. Et il n'y avait pas de critères bien définis. Il pose une main sur la branche du vieil arbre derrière lui. Par exemple, cette femme est nommée Jane. Jane vivait à l'écart. Elle était connue pour ça, à Juniper. Elle parlait toute seule, habitait seule, elle n'avait pas de famille. Elle évitait généralement de croiser des gens du village. Mais un jour, elle se trouvera prise dans une querelle avec un voisin, ils en vinrent à se battre, et poussé dans sa fureur, Jane le maudit. Qui sait ce que signifie maudire? Jurer? Non, pas tout à fait, Jamie. Mais c'est bien essayé, dit Mademoiselle Murphy, en adressant un sourire au garçon qui a répondu. Maudire, poursuit Monsieur Patterson, veut dire jeter un sort, une malédiction. C'est faire appel à une force supérieure, une force magique, afin de faire du mal à quelqu'un. Mais pour en revenir à Jane, elle était simplement furieuse, sous le feu de la colère. Elle jeta un sort à son voisin et n'y pensa plus. J'essaye de m'imaginer Jane, fatiguée, renfornée, voulant seulement qu'on la laisse tranquille. Je vois des gens qui la harcèlent depuis 40 ans, qui lui demandent de sourire, d'être aimable. Mais les sorts, ça n'existe pas en vrai, lance la voix moitié d'Émilie. La magie, ça n'existe pas. Eh bien, c'est ce que nous pensons aujourd'hui, explique Madame Murphy. Mais, en hochant la tête, mais seulement, il y a des centaines d'années, les gens avaient toutes sortes de croyances. Et les voisins de Jane commencèrent à avoir un peu peur d'elle, enchaîne Monsieur Patterson, pressé de raconter son histoire. Ils se réunirent et parlèrent toute la nuit de la femme étrange qui les avait peut-être jeté un mauvais sort. Ils en parlèrent à tous leurs amis de Juniper. Et la nouvelle finit vite par arriver aux oreilles des autorités de l'église. Je frémis. Quand vous accusez d'être une sorcière à cette époque, vous devriez passer au tribunal, dans l'église de Juniper. De nombreux procès se sont tenus au cours desquels les sorcières étaient interrogées. On faisait venir à la barre des dénonciateurs ou des témoins. Toutefois, légalement, ils n'avaient pas le droit de les exécuter. Des exécutions incubées à Édimbourg. Mais il marque une pause. Je suis suspendue à ses lèvres. Mes yeux scrutent son visage pour y trouver des indices qui m'en diraient un peu plus long sur cette histoire. Mais il a l'air tout content d'avoir capté notre attention. À Juniper, l'auto-justice était monnaie courante. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelqu'un sait? Je connais la réponse, mais je n'ai pas envie que les autres me regardent. Ça me fait drôle d'être avec tous mes camarades de classe dans ces bois où je viens souvent me promener avec Keddy. Une foule ici, ça ne paraît pas naturel. Comment Audrey? Je crois que c'est quand les gens veulent se faire justice eux-mêmes. Exactement, s'écrie Monsieur Patterson avec un grand sourire. Ainsi, plusieurs jours après que Jane leur ait soi-disant jeté un sort, les voisins ont trouvé une de leurs bêtes mortes. Bien sûr, les vaches peuvent mourir de toutes sortes de raisons, mais ils ont immédiatement soupçonné Jane. Elle devait y être pour quelque chose. Elle avait certainement fait mourir cette vache. Ce récit enflamme mon imagination. Toutes les personnes qu'il décrit, et que bien sûr je n'ai jamais rencontrées, je les vois. Je me fais un film dans ma tête. Jane, se lavant les mains, nettoyant la semelle de ses sabots tout éculés, sans se douter des cruelles accusations et des rumeurs qui lui arrivent aux oreilles des sages de l'Église. Les mensonges sont comme des malédictions. Ils sont même plus puissants et font plus de dégâts. Je voudrais que vous preniez un instant pour penser à Jane avant que nous parlions des autres sorcières de Juniper. Je reviens à la réalité en clignant les yeux. Comment peut-il laisser cette histoire en suspens? Plus nerveuse que jamais, j'attends le début de la réunion du conseil du village, la plus importante de toutes. Il s'est passé tant de choses depuis la dernière fois. Dans la paume de ma main, j'ai écrit juste le nom de Maggie. Tandis que toute la salle s'agite autour de moi, je me balance d'avant en arrière sur ma chaise. Dans un coin du plafond, un néon palpite. J'évite de le regarder pour ne pas être gênée. Debout devant l'estrade, M. McIntosh semble sur ses gardes. « Bien, dit-il. Mademoiselle Darrow voudrait prendre la parole au sujet de sa fameuse campagne. Pour ceux qui l'ignorent encore, Adeline Mead, pour une plaque ou une sépulture commémorative, soit érigée à la mémoire des victimes des procès en sorcellerie qui ont lieu à Juniper. Il me lance un regard insistant. Très très longtemps. Pauvre monsieur McIntosh, il a encore peur pour la réputation de Juniper. Je vais prendre la parole. Me voici devant un océan de visages perplexes et plein d'espoir. En plus de toute ma famille, il y a la Audrey avec ses parents et monsieur Wilson aussi. Ils occupent à eux tous le troisième rang et m'encouragent du regard. Je respire un bon coup et croise le regard de Keddy. Elle me fait un grand sourire. Nina aussi. J'appelle Adi. Je m'appelle Adi. J'ai 11 ans et je suis autiste. Léger murmure dans la salle. Je poursuis. Ça ne me fait pas peur, ni honte. L'autisme fait partie de ma personnalité. C'est comme être gaucher ou daltonien. On a une approche du monde qui est différente. C'est tout. Il y a des gens qui ne comprennent peut-être pas très bien l'autisme. Mais moi, je sais qu'il fait partie de moi. Je ne peux pas en être guérie. Je ne veux pas en être guérie. Vis-à-vis, je vis avec. C'est comme ça. Je prends une inspiration en veillant à ne regarder personne. Je sens tous les yeux rivés sur moi. Pourtant, il y a plusieurs siècles, des personnes comme moi ont rencontré d'énormes problèmes. Les gens les comprenaient encore moins bien qu'à l'époque qu'aujourd'hui. C'était très dangereux d'être différent. Je regarde M. McIntosh du coin de l'œil et je prends une nouvelle inspiration. Il y a plusieurs siècles, une personne comme moi aurait pu être à cause d'être une sorcière, juste à cause de cette différence. Parfois, j'ignore ce qu'attendent de moi les autres ou je ne sais pas interpréter ce qu'ils ressentent. Et ça peut conduire à des malentendus. Parfois, je suis très contente, mais ça ne se lit pas sur mon visage. Je peux donner l'impression d'être inaccessible, mais je me laisse facilement harceler. Quelquefois, je doute de moi, et je crois ce que disent les gens qui me harcèlent. Je regarde ma main, Maggie. Keddy, ma sœur, elle est autiste elle aussi. Chez son ergothérapeute, elle s'est liée d'amitié avec une fille autiste. Elle s'appelait Bonnie, mais Bonnie a déménagé, et après, elle n'avait plus rien à faire. Elle supportait plus l'école, ni ses angoisses, alors elle a été internée, par des gens qui ne comprenaient pas ce dont elle avait besoin. Elle avait beau leur dire, leur répéter qu'elle doit sortir de là, Ils n'écoutent pas. Ils ne font pas confiance. Ils croient qu'elle ne se connaît pas. Je renifle. Ça me perturbe de repenser encore à Bonnie. Cette fille radieuse, joyeuse. Elle avait de terribles crises émotionnelles, mais elle n'était jamais méchante. Si quelqu'un m'avait dit et répété que j'étais une sorcière, j'aurais fini par le croire. C'est plus facile quelquefois, n'est-ce pas? De croire les choses négatives plutôt que les choses positives. Je perds le fil quelques instants. Je regarde les visages dans la salle. Je me trompe peut-être, mais ils ont l'air très attentifs. Quand j'ai appris ce qu'on avait fait à des femmes ici, à Juniper, ça m'a déchiré le cœur. Elles ont été exécutées juste uniquement parce qu'elles étaient différentes ou étranges. Et tout le monde a préféré laisser faire et oublier. Du coin de l'œil, je vois Monsieur McIntosh regarder par la fenêtre. Moi, je refuse de l'oublier. Je veux qu'on fasse une plaque, une petite plaque à leur mémoire. Ce seraient nos excuses. Je vais terminer mon discours comme ça, mais je décide d'ajouter quelque chose. C'est bien différent. Du moment qu'on fait de mal à personne. Notre monde a besoin de toutes sortes de différences. Certains croient que quelqu'un m'a poussé à faire ça. Si vous croyez ça, c'est que vous ne connaissez pas bien les autistes. Des gens rient. J'ai fini, je conclue, mais je trouve que ce serait bien qu'entre nous, on se fasse une promesse. Et je me la ferai à moi-même. Chaque fois que vous croiserez quelqu'un qui vous paraît bizarre ou différent, essayez d'être bienveillant. Mais moi, je semble peut-être vous paraître bizarre, mais pour ma famille, je suis parfaitement normale. Casey, Nina, mes parents éclatent de rire. Vous-même, vous pourrez me paraître bizarre. Vous-même, vous pouvez paraître bizarre à quelqu'un d'autre. Vous êtes neurotypique et moi autiste. Pourtant, je vous assure que nous sommes plus semblables que différents. Je regarde Monsieur McIntosh regarder sa montre. Mon grand-père disait toujours que, dans le temps, les gens comme moi n'étaient pas très sociables, ni très bavards. Mais pendant que les autres passaient des heures à faire des commérages devant les cheminées, nous, on inventait l'électricité. Mon autisme, c'est exactement ça. Une sorte d'étincelle, comme les requins, vous voyez. Mes parents se regardent et se demandent sans doute si je vais transformer cette réunion en conférence sur les requins. Les requins perçoivent l'électricité présente chez les êtres vivants. C'est ça leur super pouvoir. Mais depuis qu'on a fait un film d'horreur sur les requins, on en tue des millions chaque année. Sans raison. C'est comme pour les sorcières. Je regarde Monsieur McIntosh pour lui faire comprendre que j'ai presque fini. Mon autisme n'est pas toujours un super pouvoir. Parfois c'est difficile. Mais les jours où je perçois l'électricité dans les choses, je vois les détails que les autres ne voient pas. J'adore ça. Je suis arrivée au bout et je me sens bien, quelle que soit la décision qui sera prise. Je m'aime telle que je suis. Vraiment. Je retourne m'asseoir, il y a d'abord quelques applaudissements, par ici, par là, puis ça monte tellement comment que je dois me boucher les oreilles. Kedi et Nina m'enlacent brièvement. Un membre du conseil chuchote quelque chose à Monsieur McIntosh qui acquiesce et se dirige vers l'estrade. Nous allons maintenant délibérer et voter. La plaque commémorative pour les sorcières est inaugurée vers la fin octobre. On dirait que tout le village est venu la voir, y compris un journal qui se réjouit beaucoup, ce qui réjouit beaucoup Monsieur McIntosh. Dans un discours, il explique aux journalistes qu'il a toujours soutenu ce projet et qu'il a été enchanté d'apprendre que d'autres communes d'Édimbourg avaient pris des initiatives similaires. À présent, je voudrais remercier une personne en particulier car elle a œuvré pour que cette place soit réalisée au plus vite, proclame-t-il fièrement devant la foule. Je hausse le sourcil, me demandant s'il va me remercier, moi devant tous ces journalistes. J'ai nommé Madame Myriam Jensen qui a intégralement financé la réalisation de cette plaque. Abasourdi, je balaie la foule du regard. Effectivement, appuyé sur sa canne, Myriam est là, qui se tient à l'écart, regarde tout le monde avec son air revêche. En entendant prononcer son nom, elle tourne les talons et s'en va. Je me demande si je pouvais me frayer un chemin parmi tous ces gens pour aller lui dire merci, mais elle disparaît. Je reviens sur mes pas en soupirant, je la remercierai un autre jour. Et maintenant, sans plus attendre, Juniper présente, Monsieur McIntosh dévoile la plaque commémorative d'un geste assuré, un élément important de son riche héritage. Les gens applaudissent, je me penche pour lire l'inscription. À la mémoire de tant de femmes accusées à tort de sorcellerie et exécutées à Juniper. Puisse cette plaque rendre hommage à leur existence et permettre que soit mis fin à l'intolérance. Je hoche la tête satisfaite. Peu importe ce qu'on ne m'attribue aucun mérite. Les autistes ont sans doute fait énormément de choses depuis des siècles sans que personne ne reconnaisse leur valeur. C'est peut-être un rite de passage. En silence, je dis au revoir à Maggie, à Marie, à Jane. Je pense souvent à elles, mais moins qu'avant. Le fait que la plaque soit bien visible sur la place du village au milieu d'un parterre de fleurs m'a soulagée de toute la tristesse que je ressentais en pensant à leur vie passée, à toutes celles des sorcières.
Bonsoir, moi je vais vous lire Le rat de ville et le rat des champs de Jean de La Fontaine. Autrefois, le rat de ville invita le rat des champs d'une façon fort civile à des reliefs d'ortolans. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouva mis. Je laisse à penser la vie que firent ces deux amis. Le régal fut fort honnête, rien ne manquait au festin. Mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat de ville détale, son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire, rat en campagne aussitôt. Et le citatin de dire « Achevons tout notre euro. » « C'est assez, dit le rustique. Demain, vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi, mais rien ne vient m'interrompre. Je mange tout à loisir. Adieu donc, fille du plaisir que la crainte peut corrompre. »
Bonsoir. Gabriel Filtoshiba, réfugié dans la forêt barbelée. Réfugié. Je suis une réfugiée de campagne qui préfère à la ville, la forêt estuaire, ses caps secrets. Je suis une ermite bloquée qui fuit les foules, car mes lits de lichen sont belvédères. Promesse de silence, je lisse des montagnes nues, caresses, crevasses, m'ancre au roc, livre ouvert. J'ai acquis 1000 épicéas, condamné l'excès, barré la grille qui grinçait. Je me campe ici pour de bon, bercé ce mauvais pressentiment. Hôtesse, aiguise mes sens, déteint sur moi, je flaire des présences, entends des pas.
Bonjour, je vais vous lire un extrait de L'Ys dans la vallée de Honoré de Balzac. Malgré la chaleur, après le déjeuner, je descendis dans la prairie afin d'aller revoir l'Indre et ses îles, la vallée et ses coteaux dont je parus un admirateur passionné. Mais, avec cette vélocité de pied qui défie celle du cheval échappé, je retrouvais mon bateau, mes saules et mon clochebourde. Tout y était silencieux et frémissant, comme à la campagne à midi. Les feuillages immobiles se découpaient nettement sur le fond bleu du ciel. Les insectes, qui vivent de lumière, demoiselles vertes, cantharides, volaient à leurs frênes, à leurs roseaux. Les troupeaux ruminaient à l'ombre, les terres rouges de la vigne brûlaient et les couleuvres glissaient le long des talus. Quel changement dans ce paysage si frais et si coquet avant mon sommeil. Tout à coup, je sortais hors de la barque et remontais le chemin pour tourner autour de Clochegourde, d'où je croyais avoir vu sortir le comte. Je ne me trompais point. Il allait le long d'une haie et gagnait sans doute une porte donnant sur le chemin d'Azay qui longe la rivière. « Comment vous portez-vous ce matin, monsieur le comte ?» Il me regarda d'un air heureux. Il ne s'entendait pas souvent nommer ainsi. « Bien, dit-il. Mais vous aimez donc la campagne pour vous promener par cette chaleur ? Ne m'a-t-on pas envoyé ici pour vivre en plein air ? Eh bien, voulez-vous venir voir couper mes seigles ?»« Mais volontiers, lui dis-je. Je suis, je vous l'avoue, d'une ignorance incroyable. Je ne distingue pas le seigle du blé. » Ni le peuplier du tremble. Je ne sais rien des cultures, ni des différentes manières d'exploiter une terre. « Eh bien, venez !» dit-il joyeusement en revenant sur ses pas. « Entrez par la petite porte d'en haut. » Il remonta le long de sa haie en dedans, moi en dehors. « Vous n'apprendriez rien, cher monsieur de Chessel. »« Chez monsieur de Chessel, me dit-il. Il est trop grand seigneur pour s'occuper d'autre chose que de recevoir les comptes de son régisseur. » Il me montra donc ses cours et ses bâtiments, les jardins d'agrément, les vergers et les potagers.
Résonance sur Radio B, des élèves du lycée Lalande nous invitent à un voyage littéraire et poétique. Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir.
Merci de prendre le temps, après cette lecture ici, à la médiathèque Albert Camus, voilà de nous avoir fait partager, parce que ça, c'était beau aussi de vous entendre, et de partager avec nous les textes que vous avez choisis. Peut-être, ça peut être ça, peut-être cette première question, le fait de lire, le fait de porter et d'offrir le texte à d'autres, c'est une autre sensation, c'est une autre manière de vivre le texte. Est-ce que peut-être on pourrait juste dans un premier moment échanger sur ça, sur qu'est-ce que vous avez ressenti, le fait de porter ce texte et de l'offrir à un public qui est là et qui est venu vous écouter. Qui est-ce qui aurait envie de... Oui, vous voulez bien. Votre prénom
Brian.
Merci.
Donc, bah, d'abord, il y a du stress, évidemment.
Oui.
Mais il y a aussi une volonté de bien faire.
Oui.
Et de communiquer correctement l'intonation qu'on souhaite. Et de faire au mieux pour vraiment, quand on a de la conviction et qu'on aime le texte, de la communiquer au mieux, de faire ressentir des émotions à l'auditeur. Donc, voilà.
Et est-ce que ça le permet de le percevoir différemment. Il y a le fait que je prends connaissance du texte en le lisant, au travers de ma voix intérieure, et le fait de le porter à l'extérieur, est-ce que ça a fait changer quelque chose par rapport au texte ?
Oui, parce que y a l'expression du visage,
ouais.
Le ton, le regard, ces choses-là qui sont importantes aussi dans une lecture. Et c'est vachement une manière assez différente de consommer le texte.
Et par exemple aussi de l'entendre sonner dans la salle.
Oui.
Ça a été facile dans cette salle, un peu plus difficile. Ça a demandé de faire quelque chose de particulier.
Un peu, parce que comme on est à huis clos, on va dire, c'est un peu plus stressant, on va dire. C'est-à-dire que...
Ouais.
On s'entend plus parler.
Oui, vous en
prie. Oui, on s'entend plus parler. Ouais. Et du coup, on est plus près des gens. Donc pour leur transmettre ces émotions, c'est en quelque sorte plus facile. Mais...
En fait, il n'y a pas d'écho ou quoi que ce soit. Donc il n'y a aucun bruit parasite. Enfin, c'est vraiment... On s'entend directement et c'est vrai que...
Ça, c'est un peu impressionnant.
Oui, exactement.
Ouais. C'est la première fois que vous le faites, je dirais, à destination d'un public. Vous l'avez certainement fait en classe, j'imagine.
Oui.
Non, c'est vraiment la première fois. Ouais.
C'est vraiment la première fois. Et alors, qu'est-ce que vous ressentez de cette première fois ?
Un peu du stress, oui, en effet, comme disait Brian. Mais c'est aussi une autre manière de transmettre des émotions.
Oui.
Enfin, je sais que personnellement, je danse, donc c'est plus des...
Donc une habitude déjà de la scène.
Oui, c'est ça, de la scène, mais plus des émotions à travers le corps. Et à travers la voix, on peut faire ressentir des émotions autrement. C'est deux travaux complètement différents. Et aussi d'exprimer des textes à voix haute, c'est intéressant. Et on transmet aussi des émotions d'une autre manière.
Est-ce que aussi, comme vous dansez, est-ce que habiter le texte aussi à travers le corps, il y a une impulsion physique aussi que vous ressentez éventuellement à travers le fait de porter quelque chose, comment vous pouvez rentrer dans le mouvement
Oui, c'est sûr. Il y a des fois, par exemple, quand la fille elle regarde du coin de l'œil le monsieur, on a tous envie de tourner la tête, mais il faut quand même qu'on garde les yeux sur le texte. Mais oui, il y a des réflexes un peu qui sont corporels.
Et pour vous, peut-être votre prénom, pardon.
Aaron.
Aaron, alors, votre sentiment aussi après cette lecture, c'est la première fois aussi pour vous de
Non,
vous...
c'est pas du tout la première fois.
Ah, voilà.
Mais j'adore lire.
Vous adorez lire.
C'est juste pour le plaisir. Lire devant des gens, passer devant des gens, et me faire entendre, même si c'est pas mon texte, je vais le faire découvrir aux autres. Et pouvoir parler, être écouté, et c'est ce qui me plaît.
Par plaisir. Donc il y a... Ça veut dire qu'il y aurait des envies de poursuivre ce genre de choses pour vous ?
Oui, bien évidemment.
Ouais. Et quand vous dites vous avez l'habitude, ça vous arrive à quel type d'occasion de pouvoir de livrer un texte, offrir un texte à quelqu'un ?
À l'école,
oui.
Donc sur le plan scolaire. Aussi, je ne sais pas si vous connaissez la MOPA. À cette occasion-là aussi, j'ai pu lire le texte qu'il a fait. Et que ce soit voyage ou autre, des fois on peut être amené à, à lire comme ça d'un coup.
Mmh, mmh, mmh.
Et voilà.
Et peut-être aussi, quand on vous entend, et quand on vous a entendu tout à l'heure, nous livrer aussi ces textes, c'est peut-être aussi, il y a une perception des autres aussi différemment. C'est-à-dire, vous vous connaissez, le fait d'entendre l'autre porter ce texte, c'est peut-être aussi une manière de découvrir l'autre un peu différemment, de l'entendre différemment. D'entendre toutes ces voix différentes, par exemple.
C'est moins impersonnel que simplement un texte noir sur un fond blanc, quoi.
Ouais.
Je trouve que la voix, ça trahit vachement toutes les émotions qu'on ressent. Donc, qu'on le veuille ou non, en lisant, bah, ça se sent dans nos cordes
oui,
vocales,
pardon.
qu'on ne peut pas y faire quoi que ce soit. Et forcément, oui. On se sent connecté à l'autre quand on l'écoute, ou quand on transmet le texte au public, par exemple. Et même si c'est vachement impressionnant, bah, c'est assez beau aussi. Et puis, c'est une qualité importante à posséder, puisque qu'on le veuille ou non, dans la vie, on est amené à parler, etc. La communication, c'est vachement important. C'est un outil, on va dire. Donc, le but aujourd'hui, au-delà de ces textes, c'était aussi de s'entraîner à lire et à l'oralité, tout simplement.
Oui, puis même pour en revenir à l'oralité, c'est vrai que nous, les humains, on utilise de la parole. Donc, il faut l'utiliser, exploiter ce don en quelque sorte. Et donc, voilà, transmettre des émotions à travers la parole, c'est un peu une caractéristique humaine.
Mmh. Du coup, puis en même temps, il y a une diversité finalement aussi. Là aussi, ça nous amène dans la langue, le rapport à la langue, aux sonorités des mots. Il y a aussi toute cette richesse émotionnelle dont vous parlez. Puis en même temps, il y a comment les mots, comment ils sonnent, comment chaque individu aussi. Ne sonne pas pareil avec ces mots, et donc du coup nous donne des perceptions aussi différentes aussi. Ça vous ressentez ce genre de choses aussi?
En fait, c'est quelque chose de vachement naturel, c'est-à-dire que depuis toujours on s'exprime par la voix.
Oui.
C'est pour ça que c'est une qualité importante. Et comment? Qu'est-ce que je voulais dire pour le coup?
Oui, je vous en prie. On a le temps aussi de. On a tout à fait le temps de prendre le temps de dire, justement. Donc, pas de souci. Là, du coup, on a entendu aussi des auteurs. C'est vous-même qui avez choisi aussi, à un moment donné, vous avez dit par rapport à la thématique, bah tiens, celui-là, cet auteur, ce texte, m'intéresse. Comment s'est fait un petit peu les choix un peu de ce que vous nous avez fait entendre tout à l'heure?
Alors, pour notre cas à nous,
oui.
Au départ, on n'avait vraiment pas d'idée, on était vraiment assez perplexe, même face au thème.
Ouais. Ça vous inspirait pas?
Pas forcément, c'est pas quelque chose qui a résonné en nous dès le départ.
Ouais.
Et puis après, quand on a eu ces différents choix de textes qui nous ont été proposés par votre professeur documentaliste, donc directement en lisant ce texte, c'est quelque chose qui nous a parlé.
Ouais.
Cet aspect, c'est-à-dire qu'au départ, nous qui avons grandi dans une petite ville, on va dire.
Oui. Vous habitez où alors, justement, par rapport au thème?
Nous tous les deux, on habite à Saint-Denis-les-Bourgs.
Saint-Denis-les-Bourgs, tout proche, oui.
Donc, bien que ce soit à côté de Bourg-en-Bresse,
oui.
Pour autant, ça reste une petite commune, on va dire.
Oui.
Donc, on se sentait un peu en phase avec la thématique de la campagne, etc. Et c'est vrai, quand on est jeune, on veut partir. On pense que parfois tout sera mieux ailleurs, plus grand, on aura plus d'opportunités, etc. Et bien qu'on ne l'ait pas encore vécu, plus tard, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui regrettent un peu cette campagne. Voilà, les sorties le soir, les connexions qu'il peut y avoir aussi, la famille, les lieux.
Oui, bien sûr.
Tout est moins industriel. Bah, c'est bien l'aspect du texte, d'ailleurs.
Ouais.
Cet aspect industriel dans la ville, ces grands bâtiments. Tandis que la campagne, c'est vraiment plus rural et tout est fait de pierre, c'est naturel, on va dire, donc.
Peut-être que ça nous invite à faire des voyages différents. La ville nous invite aussi à des promenades, à des manières de regarder. Peut-être certains auteurs, d'ailleurs, ils ont été nombreux aussi à se laisser interpeller par, en traversant, en marchant dans les villes, à être interpellé par tout ça.
Bah, Apollinaire, lui, il cherche la beauté partout, que ce soit dans la campagne ou même dans la ville. Il la décrit telle qu'elle est, et il trouve de la poésie partout dans chaque...
Donc ça, c'est intéressant, effectivement. Exactement. Comment la qualité de mon regard peut me faire découvrir quelque chose.
C'est vachement subjectif aussi. Tout dépend de...
De chacun.
Du vécu de chacun,
bien
etc.
Sûr. De sa biographie, de ses intérêts, de ce à quoi on est sensible aussi. Mm. Ça vous parle aussi, ces aspects qu'il vient de développer?
Par rapport à la subjectivité de la beauté, oui, c'est vrai que... par exemple, il y a certaines personnes qui trouvent des villes magnifiques, que ce soit des carrés gris ou des carrés blancs. Et d'autres voient plus de beauté dans les campagnes. Donc, c'est deux aspects différents, mais de la beauté en effet.
Et pour vous?
Non, bah oui, en ça. Oui.
Ce rapport de ville, d'urbain, de campagne.
En campagne, on se sent plus appartenir à quelque chose,
oui.
Une sorte de mini-communauté. Du coup, quand on sort, etc., bah, c'est plus convivial, entre guillemets. Mais enfin, la ville, ça l'est tout autant. Mais c'est à des échelles différentes.
Peut-être qu'on est un petit peu moins. On est plus nombreux. Il y a peut-être un peu moins cette convivialité que vous ressentez.
C'est ça, il y a peut-être moins le sentiment d'appartenance à quelque ouais. chose, en tout cas. Mais pour autant, les deux sont très bien. Et justement, le texte en part, c'est comme ça que nous, on l'a choisi.
C'est pour ça que vous l'avez choisi.
C'est ça, ouais, directement.
Alors après, dans le texte que vous nous avez offert, elle ajoutait aussi une autre dimension, puisque du coup, elle faisait aussi état aussi d'une personne qui est autiste, qui se marque. On a déjà une différence vocale, physique et autres. Et en plus, vous avez fait écho aussi à cette différence humaine, en tout cas. L'humain, c'est la... Le vivant, il est divers, il est hétérogène, et il y a des multiplicités aussi d'individus. Et là, vous nous avez fait découvrir à travers ce texte aussi cette jeune fille aussi autiste. Le pourquoi aussi de ce choix pour vous ?
Eh ben, pourquoi de ce choix ? Parce que j'ai trouvé que c'était aussi important de faire découvrir les villes, et notamment à un moment, elle s'imagine une ville du ouais. Moyen Âge à travers les yeux d'une petite fille qui est différente. Ouais. Donc pas si différente que ça, elle le dit, donc, parce qu'elle se considère un peu comme normale, même si elle sait qu'elle est très différente. Et donc j'ai trouvé intéressant que ce soit du coup à travers les yeux de cette jeune fille.
Oui.
Donc c'est une vision du coup de la beauté, de sa beauté à elle, de comment elle perçoit les choses. Mmh. Et c'est aussi du coup une autre vision, pas une vision comme des humains normaux, des neurotypiques comme elle les appelle. Donc voilà, c'est sa beauté elle, en fait, si on peut dire ça comme ça.
Oui, et puis en même temps, dans ce que vous dites, c'est intéressant, c'est-à-dire que du coup, au travers de ses yeux, elle a sa modalité de regarder.
Oui.
Ça montre aussi que peut-être chacun et chacune aussi, quel qu'il soit, peut avoir un regard pertinent et différent des autres. Et du coup, et puis même ces personnes, du coup, ont un regard intéressant et pertinent aussi sur une ville, sur un urbain, sur... pour garder la thématique sur la campagne, sur partager des émotions aussi également. Donc je trouvais que c'était intéressant d'avoir choisi aussi ce type de texte. Et du coup, ça vous donne des envies de poursuivre un petit peu, d'avoir ce vécu aujourd'hui comme ça, de s'essayer à dire. Il y aurait des envies de poursuivre ce genre de choses.
Évidemment.
Ouais.
Oui.
Bon. Bah, en tout cas, grand merci à vous trois d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et je pense que nos auditeurs, ils auront un grand plaisir à vous entendre comme ça aussi, nous apporter des éléments supplémentaires sur le moment que vous nous avez fait vivre. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Résonance sur Radio B, des élèves du lycée Lalande nous invitent à un voyage littéraire et poétique. Bonjour et merci de nous accorder quelques instants après ce moment de lecture publique. Et puis on va essayer de s'intéresser de comment effectivement on peut, l'importance d'accompagner aussi ces jeunes finalement à la fois peut-être à s'aventurer dans la lecture et puis à s'aventurer dans des auteurs et aussi pouvoir apporter un texte. Et ça fait partie aussi de vos missions, si je peux dire, au sein de l'établissement pour vous ?
Oui, tout à fait. C'est la cinquième année que je fais participer des élèves aux Nuits de la Lecture avec les médiathèques.
Ouais.
Donc on a proposé des lectures à la médiathèque. Les années précédentes, c'était ici. On avait fait une année à la médiathèque Vaillant. Et les élèves que vous avez entendus ce soir, parmi eux, il y en a deux qui ne sont plus élèves au lycée Lalande, qui sont des anciennes élèves, les deux dernières qu'on a entendues ce soir, et qui en fait ont décidé de venir ce soir.
Elles avaient plaisir à venir vous rejoindre.
Exactement. Et qui ont participé les années précédentes aux Nuits de la Lecture, qui est un événement conçu aussi bien au lycée en fait que dans le partenariat qui est mis en place avec les médiathèques. J'avais eu l'idée il y a 5 ans de proposer ces lectures.
C'est une très bonne idée, d'autant plus.
Et du coup, on a été intégrés au programme de la médiathèque et puis ça a été renouvelé d'une année à l'autre. On nous a refait la proposition qu'on a acceptée avec un nombre d'élèves fluctuant en fonction des volontaires qu'on trouve.
Oui, j'allais vous demander comment petit à petit vous arrivez à trouver ces volontaires. Est-ce qu'il y a dans le cadre justement du travail que vous faites au sein de l'établissement des moments où vous les rencontrez? Il y a des moments où vous les croisez, vous vous aventurez avec eux dans certaines lectures ou...
Alors ça dépend en fait des années.
Ça
il y a eu des années où on a fait un travail avec une enseignante de lettres par exemple du lycée qui a fait travailler ses classes sur la lecture à voix haute, l'oralité, la mise en scène un petit peu, théâtralisation. Oui. On a fait des lectures à voix haute dans l'établissement, par exemple, des brigades de lecture, des choses comme ça. Et du coup, en parallèle, on avait travaillé certains textes que les élèves après avaient proposés en lecture à la médiathèque. Cette année, ça n'a pas été le cas parce que la collègue avec laquelle je travaille beaucoup n'avait pas de classe de seconde et en première c'est compliqué avec le programme, le bac, d'intégrer ce genre de projet en fait.
J'imagine.
On n'a pas travaillé ensemble là-dessus. Par contre, j'ai un club lecture et parmi les élèves ce soir, il y avait une des lectrices qui fait partie du club et qui était déjà là l'année dernière, qui a déjà lu un texte l'année dernière. Donc des élèves qui lisent, qui aiment lire.
C'est
après,
ça.
Tous ne sont pas... partant pour lire à voix haute, parce que c'est encore autre chose.
C'est une autre dimension.
Exactement.
Et c'était intéressant de les entendre tout à l'heure aussi évoquer ces ressentis aussi par le fait entre lire, porter, et c'est toute une autre aventure, une autre manière aussi de se confronter au texte, et puis aussi à sa voix et à la réception que peuvent en avoir aussi les auditeurs.
Oui, oui. Et là, les textes que vous avez entendus ce soir, alors moi je m'étais appuyée, j'avais un corpus de textes proposés par l'organisation des Nuits de la Lecture, que j'avais édité, j'avais ma collègue qui m'avait proposé quelques textes aussi. Les étincelles invisibles, c'est un livre que l'élève est venu me suggérer, que je connaissais, et elle m'a demandé si elle pouvait, parce que le livre l'avait beaucoup touchée, et du coup, oui, tout à fait. Elle avait peur que ça sorte du thème et que ça soit embêtant, et finalement, je lui ai dit, mais non, on est dans une petite ville,
absolument.
On est sur une commémoration pour la ville, enfin, on rentre complètement
dans le thème. On rentre totalement dans le sujet, dans la thématique, effectivement.
Par contre, j'ai découvert les extraits qu'elle avait choisis ce soir, je ne savais pas du tout les extraits qu'elle allait lire.
Oui, donc c'était vraiment à son choix aussi.
Tout à fait.
Et ça aussi, c'est intéressant, finalement.
Tout à fait. Les garçons, eux, ont sélectionné, du coup, parmi les textes que je leur ai proposés, un qui les a touchés, qui leur a parlé, finalement. Et puis, les deux élèves que vous avez entendus tout à fait à la fin ont pris dans la sélection et elles ont sélectionné les textes ce soir, juste avant la soirée.
Voilà. Donc c'est de l'impromptu aussi.
Exactement.
Mais c'est intéressant aussi un peu de se lancer dans cet exercice et de dire j'y vais, je me lance, je choisis et hop.
C'est ça. Et la fable de La Fontaine qu'on a entendue, l'élève qui l'a lue, c'était son choix.
C'était son choix.
Voilà, donc un texte dont elle a travaillé la lecture en autonomie.
En autonomie complète.
Voilà, je savais ce qu'elle allait lire, mais je n'avais pas encore entendu sa lecture. Donc,
Et vous sentez que du coup, au travers de vous parlez du club lecture, de cette dimension-là, parce que aussi la nuit de la lecture rentre dans cette dynamique, on dit beaucoup que les jeunes lisent de moins en moins, est-ce que vous sentez que vous, qu'il y a une dynamique c'est certain qu'il y a une importance extrême à pouvoir développer toutes ces choses au sein d'un établissement, quel qu'il soit, un lycée, un collège. Et comment vous sentez-vous cette perception du rapport au livre et à la lecture des élèves, un petit peu vous en général, depuis la place où vous êtes au sein de cet établissement?
Je pense qu'on a beaucoup de lecteurs, malgré ce qu'on dit.
Malgré ce qu'on dit, voilà.
Oui, on a beaucoup de lecteurs, on a beaucoup d'élèves intéressés.
Ouais.
Après, on en a peut-être moins en seconde qu'il y a quelques années en arrière, peut-être aussi parce qu'ils ont d'autres préoccupations quand ils arrivent au lycée, mais on les retrouve après finalement, on les récupère malgré tout après.
Ouais.
Et puis il y a des projets, grâce à des projets qu'on mène au lycée, autour de livres, autour de rencontres avec des auteurs, des choses comme ça, on arrive à récupérer quand même l'intérêt des élèves et à les attirer vers les textes. Moi, je mets beaucoup en avant le travail sur l'oral.
Oui.
Je propose des séances à tous les élèves du lycée en première, des séances intitulé « Éloquence ». En réalité, c'est un travail sur la mise en voix, comment prendre la parole, comment monter en compétences. Et du coup, ce qu'on fait là en lecture, les lectures qui sont proposées par les élèves, on rentre complètement là-dedans.
C'est ça.
Arriver à être à l'aise quand on prend la parole, que ce soit pour lire ou pour présenter un exposé, un texte pour l'oral du baccalauréat, enfin voilà. Et donc je suis très fière de ce qu'ont fait les élèves ce soir, je trouve.
Tout à fait.
Ils peuvent être fiers d'eux. C'est...
Et vous voyez en même temps ce que vous disiez, c'est-à-dire des élèves qui étaient avec vous, qui n'étaient pas plus concernés par, qui reviennent ce soir, souhaitent dire, lire.
Oui,
ça montre bien finalement voilà, tout le travail qui est mené derrière et que du coup, voilà, y a un fil qui se tisse. Et ça, c'est vraiment chouette en tout cas.
Tout à fait.
Merci beaucoup à vous.
Mais je vous en prie.
Résonance sur Radio B. Nous venons d'entendre Madame Sandrine Cagnoli, documentaliste au lycée Lalande, qui accompagnait ses élèves du lycée Lalande. Donc nous sommes bien aujourd'hui avec des élèves du lycée qui nous invitent à un voyage littéraire et poétique. Merci de nous accorder voilà, quelques instants après ce moment de lecture. Alors, je trouvais ça aussi intéressant que vous êtes arrivé d'abord, voilà, le texte, vous l'avez choisi assez rapidement, vous n'êtes peut-être pas concerné pour la lecture, enfin voilà, vous vous êtes jeté dans le feu de la lecture. Je trouvais ça intéressant de prendre cette petite prise de risque, se dire, ça m'intéresse, d'une part les textes m'intéressent, le fait de le dire ça m'intéresse, puis en même temps je prends ce risque de... Voilà, une part de risque quand même dans cette affaire.
C'est vrai.
Comment vous le ressentez, ça? Peut-être juste votre prénom, s'il vous plaît.
Je m'appelle Louane.
Enchantée.
Enchantée. J'ai du mal à lire devant les autres, c'est pas facile.
Ouais.
Comme le disait un élève avant, c'est vrai que c'est assez stressant. On sait pas trop comment ça va se passer, comment le public, entre guillemets, va réagir avec notre lecture, donc c'est quand même assez stressant.
Oui.
Mais après, j'aime bien lire, pas forcément à voix haute, parce que je trouve que c'est quand même différent de lire à voix haute et
que
de lire dans sa tête.
Une lecture intérieure, oui, c'est ça.
Ouais. Je trouve que notre imaginaire, il est différent. Quand on est dans notre tête, on est vraiment que nous et le texte, alors que là, on a vraiment une autre dimension de nous, le texte, et les personnes qu'on cible. Donc voilà. C'est quelque chose
et d'entendre votre voix justement voyager là ici dans cette salle et que les mots sonnaient dans votre salle, dans cette salle-là, ça vous a fait peut-être découvrir encore une autre facette des mots. Je veux dire, il y a les vibrations propres qui vous sont parce que c'est la voix qui vibre, donc du coup on a ces sensations, mais en même temps ça sonne aussi dans cette salle. Ça vous a fait peut-être entendre le texte différemment ou ça n'a pas changé grand-chose pour vous?
Si, c'est vrai qu'on interprète différemment quand on sait qu'on a une personne en face de nous.
Il y a une adresse.
C'est ça, et on va plus mettre le ton, ou tout du moins essayer de mettre un ton, alors que quand c'est dans notre tête, c'est plus linéaire. Enfin, ça dépend en fait le texte qu'on lit, mais on essaye de plus mettre un ton quand on est à voix haute devant des gens.
Et pour vous, alors, peut-être en rappelant votre prénom?
Oui, alors moi je m'appelle Faustine, et c'est vrai que ce soir, c'est un petit peu sortir de sa zone de confort, d'arriver
au
vif et de choisir un texte, mais du coup c'était assez intéressant... de dire que c'était un petit défi en soi d'aller du coup adresser un texte qu'on venait de choisir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on était dans ce lycée. On a beaucoup aimé tout ce qui est le travail autour de la littérature, que ce soit l'art, tout ça. On a vraiment été très touchés par ça.
C'est un endroit qui vous intéresse beaucoup. Vous continuez aujourd'hui?
Oui, c'est ça. On est toutes les deux en école de cinéma. Ah. Donc on est vachement
comprends.
Dans la fibre littéraire et artistique.
Bien sûr.
Et du coup, ça me fait plaisir de revenir ce soir et du coup de pouvoir partager, même si on ne fait plus partie du lycée.
Bien sûr.
C'est quand même ouvert, même si on n'en fait plus partie. Et en plus, ça nous parle un petit peu quand même ce thème de campagne et de ville.
Oui.
Parce que du coup, en soi, on a quitté le nid là, on vivait à la campagne. Et du coup, là, on est parti à Lyon pour faire nos études.
Donc, vous vivez ce rapport,
justement. C'est ça, exactement. On l'expérimente et du coup, là, on vient effectuer, enfin partager une lecture qui parle de ce thème-là. Et c'est très intéressant parce que, en fait, déjà, quand on parle à voix haute, on sent, enfin, il y a la tessiture de la voix.
Tout à fait.
Qui module le texte et qui fait résonner dans la pièce. Et on sait que ça va aussi parler aux gens et résonner d'une certaine manière chez eux. Donc, en plus de du petit stress qu'on peut ressentir, parce qu'on se sent un peu vulnérable au fait de parler,
oui,
on sait qu'il va y avoir une écoute derrière. C'est pas pareil que si on le lisait simplement à voix haute. Donc ça, c'est plutôt intéressant.
Oui, parce que vous évoquez un peu de vulnérabilité, on pourrait même dire un petit peu fragilité.
C'est ça.
C'est-à-dire que, du coup, dans la prise de risque aussi, dans le fait de s'exposer à l'autre au travers du dire qu'on va leur proposer, finalement, je me mets un petit peu en danger. Et donc, du coup, il y a ce côté de fébrilité, de vulnérabilité, de fragilité qui est là, mais qui donne aussi cette excitation de fait de partager, de voir qu'est-ce qui va se passer, finalement, dans ce moment.
Exactement, ouais, c'est tout à fait ça. En plus, on sait que c'est un peu une safe place, un endroit sécurisant, parce que on connaissait les gens du lycée. Certes, on connaissait pas les
ceux personnes et celles
les spectateurs, spectatrices, mais du coup, il y avait vraiment un peu cette ambivalence de, on connaît l'aspect sécurisant, mais il y a cette prise de risque d'un autre côté, donc c'est intéressant de le vivre et de le partager.
Et pour vous, cette idée de prise de risque, là, par rapport à ce que vient de, elle vient de nous confier, vous partagez un peu ces choses-là, il y a ça...
C'est vrai qu'il y a une prise de risque. On ne sait pas ce qui va se passer, forcément, pour tout ce qu'on fait. On ne sait pas ce qui va se passer dans deux secondes.
Bien sûr.
Y a quelque chose qui est excitant parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, donc on peut encore changer des choses. Je trouve ça sympa quand même de se donner des challenges, des défis et de se dire il y a 3 ans j'aurais pas fait ça et là je suis en train de le faire, donc franchement je trouve ça chouette.
Et avant, quand vous étiez au lycée, vous avez tenté des expériences comme ça, du dire, de porter déjà des textes, c'était des choses que vous aimiez faire?
Je faisais partie du club lecture au lycée.
Très
donc j'ai au début, en fait, vu que je suis assez timide, j'ai été poussée un peu pour faire la lecture des textes, tout ça. Et au final, on prend le pli. Et donc j'ai eu l'occasion plusieurs fois de lire devant un public des textes. Et ça m'a permis de m'épanouir un peu plus oralement.
Et pour vous aussi?
Ouais, c'est intéressant. Ça traduit vraiment une évolution parce qu'on n'est pas forcément très à l'aise avec le fait de prendre la parole et on est vachement quand même poussé à ça au lycée. Donc c'est un très bon exercice pour tout ce qui est rhétorique, éloquence, tout
bien
ça
sûr,
dans la vie de tous les jours. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est qu'on a toujours été habitué au statut d'élève où c'est un adulte orateur qui va parler. Et là, du coup,
c'est vous qui prenez la parole.
Ouais, du coup, c'est intéressant d'essayer l'autre côté. Et en vrai, ça fait peur. Du coup, chapeau au professeur, parce que c'est quand même intimidant.
C'est pas anodin de prendre la parole.
Oui, voilà, exactement.
Alors après, on peut faire du bavardage, dire des choses pour meubler ou pour monopoliser peut-être la présence et autres. Et en même temps, quand on prend la parole à un autre endroit, qu'on veut essayer de dire et qu'on veut essayer de partager quelque chose, effectivement, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a comment je le dis, qu'est-ce que je dis, comment ça vient se confronter avec les pensées des uns et des autres. Voilà, c'est le dialogue qui va s'installer. Comment je peux essayer de me faire comprendre? On sait que c'est pas facile de se faire comprendre. On peut utiliser des mots, mais chacun peut comprendre des choses complètement différentes par rapport à ce que j'essaie de dire. Donc on se rend compte que la communication, la parole, tout ça, c'est tout un ensemble de choses assez complexes, finalement, dans la complexité humaine, mais de la compréhension humaine aussi, que c'est pas une chose très simple. Et j'imagine que ces questions-là, vous aventurant sur le côté image, cinéma, c'est des questions qui aussi sont très prégnantes, finalement. Ouais.
C'est ça.
Ouais. C'est au cœur de notre réflexion. C'est là, en plus de le dire de manière orale, on doit le traduire par des images et
c'est
par
ça,
une écriture. Donc c'est vrai que la question de communication, on la retrouve un peu quelles que soient les études qu'on fait.
C'est ça.
Et là, c'est vraiment au cœur d'une autre manière de nos études.
Donc c'est votre première année dans votre étude de cinéma et autres.
C'est
et ça,
ça
va, pour vous retrouver ce que vous aviez envie d'y trouver là pour l'instant? Dans comment vous aventurez, dans ce que vous commencez à apprendre, dans ce que vous commencez à mettre en œuvre?
Oui, on découvre un nouvel univers, une nouvelle manière de communiquer, justement.
Ouais.
C'est chouette quand même de voir cet art et de voir toutes les facettes de cet art qui nous permet de faire passer plein de messages ou des émotions, tout ça.
Ça veut dire que peut-être, en suivant les études que vous entreprenez là maintenant, il y a l'idée de quoi ? De devenir réalisatrice, de passer à d'autres formes, d'aller vers la télévision, d'aller vers d'autres médias, hein. Et vous avez déjà, vous, un peu des perspectives de ce que vous voudriez faire au travers de là où vous vous aventurez aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Moi, j'aimerais beaucoup être réalisatrice. C'est vraiment quelque chose
qui vous passionne.
Ouais, ça me passionne vraiment. Et du coup, je retrouve un peu ça dans le fait de parler ce soir.
Bien sûr.
Parce que, comme dans l'art, on va donner un petit peu de nous dans le partage. Parce que le cinéma, il est bien sûr ouvert sur les autres, sur le monde, pour que ça résonne en eux. Et du coup, c'est un peu la même chose là qu'on a fait ce soir. Donc, c'est intéressant. J'avais pas vu ce parallèle, mais du coup, là, je le fais et je vois que c'est intéressant.
Pour vous aussi ?
Moi, je préfère plus rester dans l'ombre, tout ça, et planifier un peu tous les tournages pour permettre justement au film d'exister.
Sur les aspects techniques autour, quoi.
Oui, voilà, c'est ça.
Ce qui est aussi tout aussi passionnant et important.
Oui, bien sûr, bien évidemment. Sûr.
Puis peut-être qu'on ne sait pas, une nouvelle prise de risque un jour.
Exactement, c'est ça.
Merci à toutes les deux, en tout cas, de nous avoir accordé ce moment. Et encore bravo pour tout à l'heure et bonne suite, surtout.
Merci, c'est gentil. C'était
avec plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Résonance sur Radio B, des élèves du lycée Lalande nous invitent à un voyage littéraire et poétique. Parler de poésie, de littérature, avec les élèves du lycée Lalande, les entendre nous faire partager ces textes et leur envie de porter des textes poétiques ou littéraires, nous conduit à parler aujourd'hui, dans ce cadre des Nuits de la lecture, d'un grand écrivain, dramaturge, metteur en scène, également peintre, qui a développé un théâtre au service de la langue. Je veux parler de Valère Novarina. En effet, celui-ci nous a quittés dans ce mois de janvier, le 16 janvier dernier, à l'âge de 83 ans. Fils d'un architecte et d'une comédienne, Maurice Novarina et Manon Trollier, Valère Novarina naît un jour de mai dans la banlieue de Genève et passe son enfance à Thonon-les-Bains, au milieu des montagnes qui lui resteront chères toute sa vie. Étudiant à la Sorbonne en philosophie et philologie, il rédige sa première pièce, L'Atelier volant, en 1970, mise en scène en 1974 par Jean-Pierre Sarrazac. Il en écrira une cinquantaine avec POL comme éditeur de toujours. En 1986, à 44 ans, Novarina ajoute à sa casquette de dramaturge celle de metteur en scène et présente Le drame de la vie au Festival d'Avignon. Il en restera un compagnon fidèle jusqu'à en assurer l'ouverture en 2007 avec L'acte inconnu. En 2006, sa pièce L'espace furieux entre dans le répertoire de la Comédie-Française. Parmi ses grands succès, citons le Discours aux animaux, 1987, qui occupe une place à part. Ce long et exigeant monologue a été porté durant des décennies et dans toute l'Europe par son acteur fétiche, André Marcon. André Marcon, justement, salue dans le quotidien Libération la langue particulière, pulsée, rythmique, qui était la signature de Valère Novarina. Celle-ci était autant chargée de réflexions vertigineuses que d'humour grinçant, poussant jusqu'à la logorrhée une parole devenue le principal personnage de l'ensemble de ses écrits et de ses spectacles. Cette langue, si singulière, puissante, volontiers déroutante, s'incarnait dans ses grandes toiles décors expressionnistes, peintes à l'aide d'un rouleau au bout d'une longue perche, et que l'on garde en tête comme le geste libre d'un géant. Il était important de rendre cet hommage, dans cette émission, dans le cadre des Nuits de la Lecture, d'une émission consacrée à des jeunes qui nous font partager aussi leur envie de dire, de nous faire partager des textes choisis de littérature ou de poésie, et donc d'évoquer ce grand écrivain qui a été Valère Novarina. Notre émission donc s'achève. Un grand merci encore aux élèves du lycée Lalande, à Madame Sandrine Cagnoli, ainsi qu'à l'équipe de la médiathèque Albert Camus pour son accueil. Vous pouvez bien sûr écouter, réécouter, en podcastant cette émission sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org, ou bien sûr sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Merci, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir accueillis chez vous. À très vite sur Radio B.